Vous écoutez
RMC. RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Vous venez de vous brancher sur RMC. Ben vous faites bien. C'est le week-end des experts. Et après le jardin. Et avant de retrouver la forme et la santé, Christian et Kia, tout à l'heure entre 8h et 9h, eh bien, c'est la maison avec Christian Pessé. Bonjour,
oui,
Christian.
Je suis là. Bonjour, mon cher François.
Alors, tout à l'heure, vous aurez un petit coup de gueule. Vous aimez les coups de gueule, hein, Christian. Vous en avez beaucoup. J'aimerais pas être dans votre intimité. Je pense que ça doit pas être facile de vivre avec Christian Pessé qui doit pousser des coups de gueule de temps, tout le temps.
Mais encore
un PV sur la voiture, encore donner de l'argent pour le péage, etc. Ouais, ça doit vous énerver, ça.
Faudrait que j'en passe chez Jean-Luc parce que je viens de m'en prendre un qui est gentil de PV.
Ah, bah écoutez, vous l'appelez demain ou vous passez à l'antenne.
Vous passerez. Bien sûr.
Donc, votre coup de gueule cette semaine, c'est la probable hausse de la taxe foncière.
Ah oui, on va vers une augmentation de la taxe foncière. J'en ai déjà d'ailleurs un petit peu parlé. On pourra y revenir.
On y reviendra. Et puis, on évoquera dans notre dossier de ce samedi matin les maisons fissurées. Christian, il a fait très très chaud.
Il a fait très très chaud.
Et alors, la conséquence de cette chaleur, de cette sécheresse, c'est que ça peut fissurer des murs.
Voilà, on va parler de deux types de fissures. Les fissures intérieures, celles qui nous embêtent quand on veut repeindre la maison, comme j'en ai parlé la semaine dernière. Et puis on va parler des fissures, on a dit, structurelles, celles qui véritablement font que la maison peut devenir inhabitable à la suite de phénomènes de mouvement de terrain liés à la sécheresse et ensuite à l'humidité. On aura un spécialiste sur la question.
Voilà, on évoquera aussi tout à l'heure, vous savez, ces fameuses opérations à 1 euro, hein, isolation, chaudière, etc. Vous voulez nous mettre en garde,
oui,
Christian, hein,
oui.
On parlera de tout cela tout à l'heure. Et puis à tout moment, le 32-16, l'appli RMC, Direct Studio pour joindre Christian PC et poser vos questions. Bricolage, maison, déco, merci d'être avec nous. Et dans un instant, ce sera notre conseil de l'expert. Mais auparavant, c'est Pascal que l'on accueille. Pascal qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour à vous.
Bonjour. Pascal. Comment ça va Pascal ?
Eh bien écoutez, ça va très bien, merci.
Vous êtes bien réveillé, on ne vous dérange pas trop là ?
Non, du tout, non, déjà bien réveillé, oui.
Parfait, vous nous appelez d'où, Pascal ?
D'Alsace, à côté de Mulhouse.
Très bien, et alors Christian Pessé, vous nous écoute avec beaucoup d'intérêt.
Allez-y.
Donc en fait, j'ai racheté une ancienne maison qui date de 1800, une maison alsacienne, à l'intérieur, il y a les poutres apparentes, et j'aurais voulu les garder, mais pas en couleur brun comme elles étaient, je voulais les mettre en blanc. Et elles sont bien fissurées partout. Et en fait, quand j'ai refait le placo aussi. Et du coup, quand j'ai mis la sous-couche, ça ressort, mais hyper jaune, quoi.
À travers la plaque de plâtre?
À travers le bois.
Le bois. Mais alors, attendez, quand vous me parlez de poutres, vous me parlez de maison alsacienne, c'est une maison à colombage et les poutres, elles sont au niveau des murs verticalement ou ce sont simplement les poutres de soutien du plancher?
Soutien du plancher, tout ce qui est plafond.
D'accord. Bah écoutez, vous êtes dans un cas tout à fait basique. Hein, je veux dire, c'est pas plus une maison alsacienne qu'une autre qui va être concernée. C'est que quand on a des poutres qui ont été peintes en marron, c'est sûr que mettre du blanc ensuite, ça pose un problème. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a effectivement la solution, je mets une couche, deux couches, trois couches de blanc, ou l'autre, qui est la méthode que tous les pros vous conseilleront, c'est il faut décaper. Hein, il faut retrouver le bois et en plus, il faut décaper, mais il faut aussi gratter et brosser parce que vous avez certainement, ce sont vraisemblablement des poutres en chêne. Le veinage ou la veinure, comme on peut dire, se trouve légèrement creusé. Et dans tout cela, vous avez de la peinture marron qui reste incrustée. Donc moi, je vois pas beaucoup d'autres solutions que de vous dire qu'il faut tout décaper pour arriver au bois nu. Et là, c'est loin d'être simple lorsqu'on a effectivement de très vieux bois comme ça. Alors, il y a des décapants chimiques, il y a avec un décapeur thermique, on peut obtenir le même résultat, le brossage, le ponçage. L'idéal, si vous le pouviez, mais ça, c'est un spécialiste qui pourra vous le dire, c'est le sablage. C'est-à-dire qu'on peut sabler les, on peut sabler le support, on peut sabler les poutres, et puis à partir de là, on va avoir un bon résultat. On posera peut-être la question tout à l'heure à notre notre invité de chez Touprey. Il y a peut-être aussi possibilité d'enduire d'enduire le bois et donc à partir de là, de repartir sur une couche, sur un support, mais qui va être un support lisse. C'est-à-dire, vous allez perdre le côté vivant du bois, quoi, le côté naturel du bois. Moi, je pense que c'est. Bah oui, mais c'est ce qu'il faut, c'est véritablement là. C'est l'huile de coude. Hein. C'est l'huile de coude.
En fait, c'est ce que je voulais pas, du coup. C'est ce que je voulais garder, moi.
Ah oui, mais ça tiendra jamais, si vous voulez, parce que vous avez de la vieille peinture en plus sur une très vieille maison. Vous avez peut-être eu du badigeon à l'eau qui va être incrusté puis qui va mal réagir quand on va le remouiller. Donc faut remettre tout ça à nu, cher monsieur. Je suis navré pour vous, hein.
Mais bon. Ouais. Voilà, Pascal, la journée commence bien grâce à Christian Pessé. Ne le remerciez pas, c'est cadeau, c'est gratuit.
C'est gentil, merci.
Allez, bon courage. Moi, je pense que demain, il faut vous lever un peu plus tôt pour commencer.
Ouais. Non, mais le week-end est mort, là, c'est foutu.
Mais non, écoutez, Pascal, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci pour votre appel. Et puis, n'hésitez pas à nous rappeler. Tiens, si vous voulez encore de bonnes nouvelles comme ça, on est là.
Merci.
À bientôt. Il est 7h17, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est la maison. Christian, je sais que vous aimez les cadeaux, je sais que vous aimez les produits high-tech.
Oui.
Vous avez remplacé votre téléphone après l'avoir fracturé. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. Vous avez mis plusieurs mois quand même, hein, pour raconter un petit peu la vie privée de Christian PC. Pendant plusieurs mois, il avait un téléphone qui était dans un piteux état.
Et ça, maintenant, il a changé. C'est tout neuf, ça marche super.
Eh bien, vous savez quoi, Christian, c'est dommage parce que vous auriez peut-être pu jouer à notre jeu de la rentrée sur RMC. On offre des iPhones, des Google Home et des montres connectées.
Bon, ben j'ai l'un des trois.
Vous avez l'un des trois?
Oui.
Très bien.
On m'a dit, j'ai un iPhone.
C'est ça. Eh bien, écoutez, si vous nous envoyez par SMS le mot RMC au 732-16, vous pouvez participer au tirage au sort pour remporter l'un de ces trois cadeaux high-tech. Voilà, c'est le jeu de la rentrée d'RMC et vous pouvez jouer avec nous jusqu'à 10h. Vous nous envoyez RMC par SMS au 732-16, soit pour l'iPhone, le Google Home ou la montre connectée. Le cadeau surprise sera à vous tout à l'heure. Bon, Christian, il est temps de retrouver votre conseil de l'expert.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pesset.
On dirait votre iPhone qui tombe par terre.
Oui,
ça fait à peu près le même bruit.
Ouais.
Alors, est-il encore d'actualité de réaliser une installation de plomberie en cuivre,
oui,
Christian?
Vous savez, j'en parle souvent. Il existe aujourd'hui de nombreux produits autres que le cuivre pour réaliser l'alimentation d'une installation sanitaire. Autrement dit, les tubes qui vous amènent l'eau chaude et l'eau froide sur votre lavabo, sur votre évier. Alors, je vous ai parlé du PER, le polyéthylène réticulé. Je vous ai parlé du multicouche qui sont tout à fait adaptés au mode de construction actuel. Et notamment pour certains d'entre eux, notamment le PER, au passage derrière les cloisonnements. Et bien, pourtant, le cuivre reste le matériau qui a la faveur de bien des professionnels qui ne jurent véritablement que par lui, malgré un prix qui est nettement supérieur au nouveau produit. Alors, il y a quoi ? Il y a la tradition, il y a les habitudes. Le cuivre a supplanté le plomb dans les années 1930. Le plomb, vous savez, qui aujourd'hui est tout à fait interdit dans les installations neuves et doit être éradiqué progressivement des installations anciennes.
Ça peut poser de gros problèmes sanitaires.
Ça peut poser notamment le fameux saturnisme.
Oui.
J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, quels sont les atouts du cuivre ? Eh bien, une résistance au vieillissement incomparable. Ça bouge pas.
Ça bouge pas.
Vraiment, on peut dire que avant 30 ans, rien ne se passe et même bien au-delà, il y a des installations qui ont 50, 60 ans, j'en sais rien. Mais c'est véritablement un produit très durable. Il y a le côté sanitaire parce que c'est un produit qui est neutre, qui ne pose aucune difficulté sur le plan donc de la santé. Et puis en plus, qui bénéficie de raccords. Je vais y venir un instant. Qui bénéficie de types de raccords qui sont parfaitement étanches. Donc les problèmes sanitaires dans les canalisations, c'est en général les micro-fuites qu'on ne détecte même pas. Et qui font que de l'air entre dans les canalisations. D'accord. Et comme de l'air entre dans les canalisations, des bactéries peuvent s'y développer. Donc avec le cuivre, on est tranquille. Évidemment, c'est un matériau qui se prête à beaucoup de modes d'assemblage. Alors l'assemblage véritablement pratiqué le plus fréquemment par les pros, c'est ce qu'on appelle la soudure. En fait, on devrait parler de brasure, qui consiste à assembler deux tubes qu'on a légèrement, on en a évasé l'un, on a fait l'emboîtement, et là on apporte un métal. On appelle ça d'ailleurs un métal d'apport, qui prend une température relativement basse. C'est généralement à base d'étain, et ça chemise, on peut dire, la liaison, et donc l'étanchéité est totale. Alors il y a aussi des modes d'assemblage avec des raccords vissants. On appelle ça des raccords américains parce que ce sont les Américains qui nous les ont apportés, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Ces raccords vissants, il y en a différents types. Le problème, c'est que là, le raccord vissant, il n'a pas une durée de vie exceptionnelle. Je viens d'en faire les frais chez moi il n'y a pas très longtemps, où j'ai eu un raccord vissant qui n'était plus étanche, quoi. Donc, il y a aussi maintenant des raccords automatiques. Le raccord, clac, juste à emboîter. C'est formidable, c'est rapide. Ça coûte cher, et on n'est pas sûr que ça va durer aussi longtemps que cela. Alors, est-ce que le cuivre est véritablement en recul face aux matériaux de synthèse ? Oui, c'est clair, mais tous les vieux plombiers vous diront, le cuivre, il n'y a rien de mieux.
Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, Christian ?
Ah ben, je le pense.
Vous le pensez aussi ?
Oui, bien sûr.
Parfait.
Je le pense.
Christian, il est 7h22. On va revenir dans un instant et on va s'attaquer à notre dossier de ce samedi matin. On va évoquer les maisons fissurées. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur, lié sans doute à la sécheresse, à la canicule. On va en parler avec nos invités. Que faire si on constate, par exemple, que des murs de notre maison sont fissurés ? Faut-il s'en inquiéter ? Et comment réagir ? Comment réparer tout ça ? On va voir ça dans un instant. Vos questions, tiens, sur ce sujet. Avez-vous remarqué peut-être des fissures sur vos murs ? N'hésitez pas à nous le dire. Dès maintenant, le 32-16, le standard RMC Amina vous attend, ou via l'appli RMC et Direct Studio, vous nous laissez votre petit message avec votre numéro de téléphone. A tout de suite après la météo.
RMC.
Jusqu'à 8h.
C'est comme ce ciment. Tu peux être sûr que c'est un ciment hongrois. Hein. La loi de l'éternel provisoire. Hein. Et tu peux être sûr qu'ils mettent beaucoup plus de sable qu'ils ne mettent de ciment. Hein. Ça, c'est certain. Hein.
Votre maison.
C'est des économies de bout de chandelle et après, les murs se lézardent. Ça, c'est certain. Il y a des fissures, tout le bazar. Hein.
Oh, qu'est-ce que c'est que ce machin ?
Non, touche pas !
François Sorel.
Christian Pessé.
Christian Pessé, le retour de ce rendez-vous maison, 7h29. Et là, on va évoquer un sujet qui n'est pas forcément très très drôle. Hein.
Non,
c'est lorsqu'on
même
constate
si on a voulu
que...
Oui. Décrisper un petit peu.
Oui, décrisper l'antenne, évidemment. Mais c'est vrai que, quand on constate des fissures sur les murs de sa maison ou de son appartement, tout de suite, on n'est pas très rassuré. On va en parler avec nos invités ce matin.
Voilà, nous avons deux invités ce matin. Florence Sorrentino, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable marketing produit chez Toutprêt, qui est un industriel spécialisé dans les produits de rebouchage, notamment de fissures, de trous des murs intérieurs, mais aussi extérieurs.
Tout à fait.
Et puis Stéphane Grindorge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur réseau Open Group et vous êtes spécialisé dans le traitement des fissures que je qualifierais de structurelles, qui sont liées notamment au phénomène de gonflement, retrait des terrains argileux. On va en parler. Alors effectivement, lorsqu'on a des fissures dans une maison, intérieure ou extérieure, la première des choses, on a tout de suite le sentiment qu'on est en danger, pratiquement. Hein. Alors, il y a des fissures qui sont dangereuses, et puis d'autres qui le sont moins. Alors, on va commencer par celles qui le sont moins, avec Florence Sorrentino, donc de chez Toutprêt. Donc vous êtes spécialisé dans les enduits de rebouchage.
Alors les enduits de rebouchage et les enduits de préparation des fonds pour la rénovation notamment et avant donc les remises en peinture.
D'accord.
Donc on prépare les supports avant de les remettre en peinture.
Alors il y a micro fissure, il y a fissure, il y a lézard. On a l'impression qu'il y a une espèce de graduation.
Tout à fait.
Dans la catastrophe.
C'est même normé. Bon, ça, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. C'est pas très
important. Allez-y, dites-nous.
Alors, les micro-fissures sont des fissures qui sont inférieures à 0,2 mm.
Oui.
Alors que les fissures, elles vont jusqu'à 2 mm.
D'accord.
Au-delà, on parle de lézardes. Donc, très clairement, lorsqu'on prépare les supports avant décoration, on va s'intéresser donc aux micro-fissures et aux fissures qui ont plus un caractère, en fait, esthétique et surtout pas structurel.
D'accord. Alors, une micro-fissure, 0,2 mm, c'est vraiment rien du tout, quoi.
Rien du tout.
Ça se voit, parce que comme le nez au milieu du visage, hein, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on peut se contenter de repeindre ou est-ce qu'il faut réenduire? Est-ce qu'il faut creuser la fissure? Non.
Non, alors là, il peut y avoir des solutions un peu plus simples. Quand même gratter, parce que si effectivement la peinture, si il y a une fissure, peut-être que la peinture autour est plus très adhérente.
Oui.
En quel cas, il faut brosser pour retirer les parties non adhérentes. Et ensuite, on peut directement mettre un petit calicot.
Calicot, c'est une bande de tissu.
Une bande de tissu, et qu'on vient coller directement à la peinture, et ensuite on repeint.
D'accord.
Ça, dans le cadre des micro-fissures, c'est suffisant.
Alors, deux types d'enduits. Il y a des enduits qui sont à gâcher, c'est-à-dire qui sont en poudre à mélanger avec de l'eau. Puis il y en a qui sont tout prêts, sous forme de pâte.
Oui.
Pourquoi il y en a deux? Pourquoi on continue à gâcher de la poudre, sans la perdre, hein, évidemment. Pourquoi il y a encore les deux produits?
En fait, c'est deux techniques complètement différentes. Et en fonction, effectivement, des travaux à réaliser, on préférera l'une ou l'autre. Dans le cadre des enduits en poudre, donc effectivement à gâcher, en fait, là, on va avoir un durcissement du produit au fur et à mesure du temps, et donc du coup il se passe un phénomène de cristallisation qui fait que l'enduit en fait prend sa position et ne se rétracte pas.
D'accord.
Alors que dans le cadre d'un enduit en pâte, pour que l'enduit durcisse, il va falloir qu'il perde son eau. Donc, ça va se faire au moment du séchage, mais du coup, il va y avoir un retrait. Donc, effectivement, lorsqu'on va avoir des gros trous, notamment, on va préférer des enduits en poudre parce que ce sera beaucoup plus simple d'utilisation, on aura moins de passe à faire.
Donc, ça, c'est clair. Gros trous, grosse fissure, la poudre.
Oui.
Pour le reste, pour les petits rebouchages.
Après, pour les petits rebouchages et notamment pour les fissures, ce qui peut être intéressant, c'est plutôt d'utiliser donc des enduits prêts à l'emploi et souples. Pourquoi souples? Parce que du coup, ça va être des enduits qui vont avoir la particularité d'absorber les légères déformations du support. Donc, on ouvre la fissure, soit avec un triangle, notamment si on est en intérieur. On enduit la fissure avec un enduit souple.
Oui.
On vient par-dessus mettre une bande adhésive, pour le coup.
Oui.
Donc, il y a une espèce de bande grillagée, hein, et sur lequel, effectivement, après, on vient noyer ça dans l'enduit. Donc, on vient passer une couche d'enduit, et après, on remet en peinture.
Mais alors, ça veut dire qu'il va falloir enduire très largement autour, parce que sinon, on va avoir le fantôme, quelque part, de la fissure, de la zone fissurée.
Alors oui, il faudra faire une reprise un petit peu plus large, dans le cas de vraies fissures. Ça va être nécessaire. Ou alors, une autre solution, c'est d'utiliser toujours un enduit souple et par-dessus de venir mettre un revêtement qui, lui, sera également un peu élastique. Auquel cas, effectivement, là, vous pouvez passer l'étape de la bande à fissure.
Oui. À l'intérieur comme à l'extérieur. Et à l'extérieur, si on a une grosse fissure, on la creusera comment?
Ah oui, alors attention. Là, j'étais sur l'intérieur.
Vous étiez sur l'intérieur.
Oui, tout à fait. Sur l'extérieur, pour le coup, là, lorsqu'on a des fissures, attention, on est sur le bâti, on est sur quelque chose qui doit être étanche parce que c'est la première protection qu'on a. Donc là, clairement, les fissures... quand on a des fissures, il faut effectivement les ouvrir. Pour le coup, là, on les ouvre avec un disque, de façon à bien ouvrir la fissure, au moins jusqu'à 5 par 5, en V.
5 par 5
enfin, 5 mm. 5 mm de largeur.
5 mm de large, 5 mm de profondeur.
Et plutôt en V, donc, avec le disque. Et là, effectivement, on vient mettre un enduit souple. Et derrière, il faudra effectivement remettre aussi une bande à fissure. Et pour le coup, venir en plus finir avec un revêtement d'impair type I4 pour les connaisseurs, mais du coup qui soit un peu élastique pour reprendre ses fissures.
Alors évidemment, c'est un sujet qui vous concerne, hein, les fissures, puisque nous avons pas mal de questions à la fois sur Direct Studio ou au 32-16, et Jean est là avec nous. Bonjour Jean.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Jean.
Bonjour.
Bienvenue
bonjour,
Jean sur RMC. Alors on vous écoute.
Je vous entends mal, excusez-moi.
Alors nous on vous entend bien, c'est l'essentiel. Expliquez-nous ce qui se passe.
Alors en fait voilà, je vous appelle parce que j'ai c'est pas ma maison qui fissure en fait, c'est la maison de mon voisin.
Oui.
Et le problème c'est que son terrain, enfin sa maison, son mur, il est le long de mon terrain. Et
dans cette partie, je dois faire des travaux d'aménagement. Je dois faire une allée pour rentrer ma voiture. Et étant donné que sa maison fissure, on m'a vivement conseillé de ne rien faire, car le problème, c'est qu'on peut m'accuser d'avoir fait fissurer son mur.
Bah écoutez, vous faites des photos avec le redatage, c'est facile maintenant. Nous, en démontrant que sa maison elle est déjà fissurée et que c'est pas vos travaux qui vont fissurer. Là, on n'est pas tellement dans la question du traitement des fissures. On est dans les effectivement problèmes de voisinage. Au besoin, vous faites si vous avez de gros travaux à entreprendre, eh bien faites peut-être faire un constat d'huissier de la situation du mur de votre voisin.
D'accord, très bien. Voilà. Et donc on constate d'huissier avec photo et ensuite je dois me retourner vers les voisins pour les prévenir ou...
Oh, bah, c'est toujours pas mal de prévenir ses voisins quand on va faire des gros travaux chez soi qui peuvent avoir des conséquences sur les voisins. Mais après, c'est à l'entreprise qui fera vos propres travaux de prendre ses responsabilités par rapport aux conséquences sur le voisinage.
D'accord. Voilà. Alors, en fait, le voisin peut se retourner contre les entrepreneurs.
Il se retournera contre vous. Hein, de toute façon, il se retournera pas contre les entreprises. C'est vous qui devrez ensuite gérer ça avec vos entreprises.
D'accord.
Merci
Jean. Très bien.
Merci.
Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie. Voilà. Et si tout comme Jean, vous avez des questions sur les murs fissurés, les maisons fissurées, les apparts aussi, n'hésitez pas 32-16.
Alors, on va parler justement des fissures structurelles avec Stéphane Grindorge. Bonjour.
Bonjour.
Directeur réseau d'une structure spécialisée justement dans ces fissures structurelles. Alors, ces fissures structurelles, elles proviennent quand même des changements climatiques. On peut le dire, même si elles ont toujours existé, c'est le phénomène de gonflement-retrait des argiles. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche ?
Alors, très simplement, le retrait-gonflement des argiles, on va essayer de faire simple, se schématise. On imagine la construction d'une maison sur une éponge qui, lorsqu'elle est mouillée, se gorge d'eau, gonfle, et lorsqu'il fait très chaud, donc sécheresse récurrente depuis 2016 maintenant, se rétracte. Autrement dit, la maison va subir un certain nombre de contraintes et se fissurer.
Oui, parce que la maison, elle est rigide, et puis ça bouge d'un côté ou de l'autre. Alors, à partir de quel moment on peut suspecter ce phénomène ? C'est d'abord une question de terrain, certainement, mais je dirais, il y a aussi l'évolution. Comment on contrôle l'évolution d'une fissure ?
Alors, pour contrôler une fissure, on a plusieurs possibilités. La plus ancienne des méthodes, ce serait de faire un petit témoin au plâtre.
Au plâtre, avec la date dessus.
Voilà, on va marquer la date.
Avec un clou,
Un clou, par exemple, qu'on va graver. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, qui est un petit peu plus récente et un peu plus évoluée, va être la pratique de pose de jauge.
Ah oui, j'ai vu ça l'autre jour. C'est des petits trucs avec une petite, presque un petit repère. Et puis,
voilà, vous avez la possibilité, sur ces jauges, de faire une lecture au dixième de millimètre, ce qui permet donc de faire des relevés trimestriels. Parce que c'est vrai que les fissures génèrent un phénomène psychologique qui empêche souvent les gens de dormir et découvrent des fissures nouvelles tous les jours qui en réalité sont là depuis déjà un certain temps. Donc ces relevés se font trimestriellement et on va pouvoir surveiller l'évolution éventuelle des fissures au dixième de millimètre.
D'accord. Et ça évolue vite, ça évolue à partir de quel moment on peut commencer à paniquer en se disant oh là là, parce que moi on voit des photos, c'est effrayant, hein, des lézards de 2 cm de largeur. Hein.
Alors, à partir du moment où on se trouve déjà sur des crevasses ou des lézards, il est tard pour s'inquiéter, concrètement. Il est déjà un peu tard pour s'inquiéter.
Il faut s'en aller, quoi. Ouais.
Non, il ne faut pas forcément s'en aller.
Appelez allô, vous avez un bulle, merci.
Mais dès qu'on arrive déjà dans ce phénomène, si on ne s'en est pas inquiété avant, il est de bon ton de consulter un expert bâtiment en construction, idéalement spécialiste en pathologie du bâtiment, qui... les maladies du bâtiment, qui va tout de suite poser un diagnostic sur l'état structurel du bien.
Nous avons Nicolas au 32-16. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Vous êtes en voiture, Nicolas ?
Oui, je suis arrêté maintenant.
Parfait, très bien. Alors, on vous écoute, Nicolas, racontez-nous.
Voilà, je vous appelle parce que j'ai eu une livraison d'appartement le 19 juillet dans un appartement neuf, un bâtiment neuf. Et après cette livraison, on a constaté à plusieurs reprises des fissures sur des murs béton. Et le promoteur nous a annoncé que c'était normal parce que après l'élévation du bâtiment, il y avait une période pendant laquelle il bougeait. Et on est donc du coup posé sur un sol argileux.
Ouais, bah écoutez, alors moi je vais tout de suite vous dire, l'argumentation selon laquelle les maisons, c'est normal qu'elles travaillent, c'est normal qu'elles se fissurent parce qu'il faut que ça se tasse, il faut, non, tout ça c'est du pipeau, hein. Il faut immédiatement intervenir, et effectivement, alors est-ce que, monsieur Grindorge, est-ce
mais
que...
vous avez, alors juste, Nicolas, vous avez beaucoup de fissures dans votre appartement?
Non, on en a déjà constaté à la livraison 2, et depuis qu'on est dans l'appartement, on en a retrouvé de nouveau 3 ou 4. Donc à chaque fois, ils sont intervenus.
Pour les reboucher, avec... simplement.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, avec une, ils écartent un peu la fissure, ils mettent un enduit de rebouchage.
C'est exactement ce que nous a dit Mme Sorrentino il y a quelques minutes. D'accord. Mais c'est tout.
Voilà, mais ça s'est arrêté à ça. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est le bâtiment entier, à mon sens, qui
bouge.
Parce qu'au niveau de la place de parking, sur ces fameux murs de béton, on constate aussi qu'il y a des petites fissures qui se créent un peu partout, quoi.
Stéphane Grindorge, les bâtiments collectifs aussi peuvent donc être concernés. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça? Ils viennent en plus d'emménager individuellement, parce que si on a une maison individuelle...
Mais c'est une erreur de construction, oui. Là, c'est un défaut de construction.
C'est un problème d'études de sol qui a été insuffisante.
Probablement un problème d'études de sol, d'adaptation des fondations à la nature du sol. Probablement, encore une fois, il faudrait visualiser le problème pour le savoir, mais dans ce cas précis, individuellement, ce sera compliqué de mener une action, puisque le problème répond à la copropriété, et il faudrait que chaque copropriétaire signale les désordres qu'il a pu constater au syndicat des copropriétaires, KIRFA, qui va faire remonter l'information au syndic, cas échéant s'il y en a un, et qui mènera une action auprès du promoteur.
Et alors, d'accord, mais qu'est-ce qu'il peut faire le promoteur? Il va pas raser l'immeuble et le reconstruire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut que reboucher les fissures quand elles apparaissent, ou il y a autre chose à faire?
Non, on va rentrer justement dans le curatif. Alors, oui, qu'est-ce qu'on fait, même sur un immeuble? C'est la même chose qu'une maison individuelle. Donc,
et est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que c'est dangereux que, comme ça, au bout d'un mois après la construction d'un immeuble, des appartements, les murs des appartements se fissurent? Alors, il faut s'en inquiéter ou finalement, bon, c'est pas grave?
Toutes les fissures, à mon sens, que ce soit des micro-fissures jusqu'aux lézardes, dénotent de tension qui s'exerce sur la structure. Donc, toutes les fissures doivent être prises au sérieux. Dans ce cas de figure, évidemment, ça doit être pris au sérieux et le promoteur ne va pas décider de raser l'immeuble, mais plutôt surveiller l'évolution éventuelle de ces fissures pour ensuite mener les actions correctives sur les fondations si c'est la problématique réelle sur ce bâtiment.
Ah oui, on a vu des immeubles entiers s'écrouler. Hein.
Oui, tout à fait.
Pas très loin d'ici d'ailleurs.
On revient dans un instant, il est 7h43, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est la maison. À tout de suite.
RMC.
Jusqu'à 8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
Le retour du week-end des experts à la maison avec Christian Pessé. On évoque les maisons qui se fissurent. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur, hein, à cause évidemment de la sécheresse, hein, des aléas climatiques. Et on en parle avec nos invités avant de retrouver Nathanaël qui a une question sur un tout autre sujet, Christian.
Voilà, alors Stéphane Grindorge, vous êtes spécialiste donc de ces fissurations. Florence Sorrentino, de chez Tout Près, elle fait du rebouchage finalement. Donc il n'y a pas ça peu après vous. On va dire que il y a quand même des solutions. J'ai parlé du bulle, bon ça c'en était une. Mais c'est quoi les solutions de rattrapage de maisons qui se lézardent?
Bon, alors on parle très souvent de consolidation en sous-œuvre ou de ce qui signifie réparation des fondations. On va avoir deux méthodes qui vont s'appliquer, la technique par micropieux et la technique par injection de résine expansive.
Alors micropieux, on fait un grand trou où on injecte du béton dedans, c'est ça?
On va chercher le bon sol, donc en fonction de la profondeur, ce sera plus ou moins cher et invasif en termes de travaux. Là où la résine expansive, on va avoir approximativement pour une maison qui se fissure, sur une dalle de 100 mètres carrés en reprise, un coût qui va avoisiner les 30 000 euros, grosso modo.
D'accord. Il y a aussi le chaînage de la maison, l'ensemble peut-être de retenir la cohésion, l'agrafage.
Voilà, alors l'agrafage, c'est la deuxième partie, les travaux. travaux de consolidation font toujours l'objet d'un phasage, c'est-à-dire qu'on va consolider les fondations, ensuite on va procéder à l'agrafage, donc le principe de suture, hein, finalement on va suturer la maison, et en dernier lieu on va procéder sur les éléments esthétiques, c'est-à-dire la reprise des enduits de façade.
Alors indemnisation uniquement dans le cas où il y a un classement de catastrophe naturelle de la, dans la commune, et ça se passe comment ? Il faut agir très vite, non ?
Alors, dès l'apparition de fissures, il est de bon ton de le signaler dans un premier temps, avant même son assureur, de le signaler à la commune, qui, elle, va enregistrer l'ensemble des déclarations faites par les habitants de cette commune. Arrivé à un certain nombre de dossiers déposés chez le maire,
on il va déposera... obtenir.
Un dossier pour une enquête interministérielle. Les délais de cette enquête peuvent varier de 5 à 18 mois, grosso modo. Ouais. À l'issue de quoi sera éventuellement publié un arrêté de catastrophe naturelle. C'est à ce moment-là que le propriétaire aura 10 jours à compter de la publication de l'arrêté, pas un jour de plus, pour signaler à son assurance, voilà. Évidemment.
C'est purement scandaleux.
Et pris en charge. Voilà.
Et donc là, il faut faire sa déclaration à l'assurance.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci
donc Stéphane Grindorge donc de Open Group et Florence Sorrentino de Tout Prêt.
Nathanaël est avec nous. Bonjour Nathanaël.
Oui, bonjour monsieur.
Bienvenue Nathanaël.
Oui.
On vous écoute.
Oui, je vous sollicitais ce matin pour faire suite à votre émission de la semaine dernière,
oui.
Concernant le traitement de charpente. Et j'aurais voulu savoir si un badigeonnage des charpentes en prévention tous les ans était utile pour éviter les attaques
d'insectes oxylophages. Oui. Moi, je serais tenté de dire si votre charpente n'a aucune attaque pour l'instant, si vous ne voyez pas de traces. Moi, je laisserai courir. Bon, je sais que je vais me faire encore des amis du côté de ceux qui vendent des produits. Je surveillerai. Ensuite, si effectivement vous êtes quand même un peu préoccupé, eh bien, vous pouvez faire un traitement de badigeon, effectivement, ou de pulvérisation d'un produit classé CTBA+. Hein, je précise toujours, c'est-à-dire un produit qui est référencé comme de qualité efficace. Vous le faites et puis mais vous n'allez pas faire ça tous les ans, pourquoi pas tous les mois aussi,
oui.
Hein. Donc vous le faites là si vous allez aménager vos combles, etc. Et puis vous ne passerez sur des opérations plus complètes, c'est-à-dire d'injection, que si vraiment il y a des traces avérées d'attaque d'insectes oxylophages. Ne cherchez pas trop midi à 14h.
Le xylophène fait partie des traitements
les produits de cette marque sont réputés depuis fort longtemps,
oui.
Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont également de très belle qualité.
Merci beaucoup Nathanaël. Et pour terminer ce week-end des experts maison, Christian, c'est l'actualité de la semaine et c'est votre coup de gueule.
Oui, coup de gueule, puis coup de cœur un peu quand même. La direction des fraudes, vous savez, la fameuse DGCCRF, semble enfin s'intéresser à la question des opérations à 1 euro.
Oui, qu'on évoque de temps en temps dans cette mission.
Voilà, en publiant un article sur son site sur la question. Oh, c'est pas très vigoureux, je suis allé le voir. La DGCCRF, en fait, a été sensibilisé par le nombre de plaintes qui lui sont arrivées, et notamment contre le démarchage téléphonique, dont vous êtes certainement les uns et les autres victimes. Ils ont recensé des gens qui ont été appelés 25 fois dans la journée. C'est certainement l'extrême, mais ça arrive aussi. Alors qu'est-ce qu'elle nous recommande, la direction des fraudes? Ne pas donner suite aux sollicitations d'entreprises se réclamant d'organismes publics, mairies, départements, états, etc. Ne jamais céder aux menaces de prétendues pénalités actuelles ou futures. On vous appelle, on dit attention, il va y avoir des pénalités. Hein ? Non, c'est pas vrai. En cas de démarchage à votre domicile, effectuez les recherches minimales sur l'identité commerciale de l'entreprise, notamment le registre du commerce, des métiers, etc. Et puis, si vous en arrivez au contrat, eh bien lire le contrat, ne jamais signer quoi que ce soit dans la précipitation, prendre le temps de réflexion et s'assurer que le contrat comporte bien un bordereau de rétractation. Donc, dans les 14 jours, et le faire jouer sans hésiter si vous sentez qu'il y a un loup. Enfin, j'en reviens sur le harcèlement téléphonique. Je vous rappelle qu'il suffit de taper bloc tel en un seul mot sur n'importe quel moteur de recherche pour arriver sur le site du gouvernement et pour être normalement protéger contre les appels téléphoniques abusifs. On en reparlera, je pense que la semaine prochaine.
On va faire un dossier là-dessus.
On va faire un dossier sur les arnaques à 1 euro, parce que c'est un dispositif extrêmement vertueux, mais qui malheureusement est perverti par quelques éco-délinquants.
Il y a eu toujours eu des abus, hein, en fait.
Bah, vous savez, à chaque fois qu'il y a une niche, qu'il y a une opportunité, clair. Ça se passe comme ça. Voilà.
Christian.
À la semaine prochaine.
Vous allez laisser la place à un autre Christian.
Oui.
Voilà. C'est Christian avec qui a.
Bonjour, docteur. Christian PC, émission toujours exceptionnellement pratique, concrète, claire, nette, ouais, remarquable.
Vous lui mettez combien sur 20?
19,75.
Ah, maintenant, il faut que je fasse les 0,25.
Les 0,25, c'est parce qu'il m'a pas dit bonjour quand je suis rentré.
Ah, ça, c'est pour ça. Christian PC, à la semaine prochaine et dans un instant, c'est la forme et la santé avec Christian Rekia et on attend vos questions forme santé au 32-16. À tout de suite après la météo des infos.
RMC jusqu'à 9h.
Votre forme.